Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 30 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, des véhicules et des aéronefs de l'armée réceptionnés par la CENI pour servir aux élections du 23 décembre prochain.
En République centrafricaine, un député dégaine et tire en l'air à l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui a élu hier son nouveau président.
En Guinée, l'opposition a appelé à une marche et à un meeting aujourd'hui à Conakry.
En Mauritanie, Mohamed Salem Ould Béchir est le nouveau premier ministre du président Mohamed Ould Abdelaziz.
En Tunisie, une kamikaze a fait au moins 15 blessés hier à Tunis.
Et ici aux États-Unis, le président Donald Trump attendu aujourd'hui à Pittsburgh, en Pennsylvanie, après le massacre de samedi dans une synagogue.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la commission électorale a réceptionné hier à Kinshasa un lot de camions et d'aéronefs de l'armée pour acheminer le matériel pour les élections de décembre, et ce, conformément à la volonté des autorités de se passer de tout appui international. Nani Talani fait le point.
150 véhicules de fabrication russe de marque Kamaz étaient exposés devant le siège de la commission électorale nationale indépendante, où les autorités ont symboliquement remis les clés à Corneille Naga, président de la CENI. Parallèlement, une dizaine d'avions et hélicoptères ont été remis à la CENI lors d'une cérémonie officielle à l'aéroport international de Ndili dans l'est de Kinshasa. Selon Crispin Atamatabe, ministre congolais de la Défense, ce matériel retournera à la base logistique des forces armées de la RDC après les élections. Il s'agit de l'expression de la souveraineté de notre État. C'est une volonté du gouvernement de voir la CENI être autonome dans l'accomplissement de sa tâche. Par ce geste, le gouvernement veut imposer le respect de la communauté internationale, s'est félicité le ministre de l'Intérieur Henri Mova. Kinshasa avait promis de financer seul ses élections sans appui extérieur.
En République centrafricaine, Laurent Ngoro-Mbaba, un député choisi par le groupe parlementaire de la présidence, a été élu lundi par ses pairs président du Parlement, où un autre député a tiré en l'air en séance en fin de matinée. Laurent Ngoro-Mbaba, qui était ministre sous l'ancien président François Bozizé, remplace Karim Mekasua, destitué vendredi. Le député qui a tiré en l'air, Alfred Yekatom, est un ex-chef des milices anti-Balaka du Sud. Il a été arrêté dans les couloirs de l'Assemblée par les forces de sécurité. À noter aussi qu'une voiture a tenté de forcer le barrage de police devant l'Assemblée, où des tirs ont été entendus. Nous reviendrons sur les développements d'hier à l'Assemblée nationale centrafricaine avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila. Ce sera en seconde partie de cette édition.
En Guinée, l'opposition a l'intention d'organiser une marche et un meeting aujourd'hui à Conakry, une semaine après une manifestation au cours de laquelle une balle a été tirée sur le véhicule du chef de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, et un jeune homme de 18 ans tué par les forces de l'ordre, selon ses proches. Hier, les rues de Conakry étaient en grande partie vides. Lundi matin, en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition, elle proteste ainsi contre la violation, selon elle, d'un accord avec le pouvoir sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février.
En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a désigné hier un nouveau premier ministre, Mohamed Salem Ould Béchir, en remplacement de Yahya Ould Admin, qui a présenté la démission de son gouvernement 6 semaines après des législatives remportées par le parti au pouvoir Jacques Aristide.
Ingénieur de formation âgé de 56 ans, Mohamed Salem Ould Béchir dirigeait depuis août 2016 la Société nationale industrielle et minière. Il était auparavant ministre du pétrole et de l'énergie du gouvernement de son prédécesseur, pour qui il avait été plusieurs fois ministre. Il devait entamer directement ses consultations pour former son nouveau cabinet. L'ancien Premier ministre continuera d'assister au Conseil des ministres en tant que ministre d'État chargé de mission auprès de la présidence de la République République, poste pour lequel il a été nommé hier par décret présidentiel. Ce changement à la tête du gouvernement intervient après la large victoire lors des élections du 1er 15 septembre du parti au pouvoir, l'Union pour la République, face à une opposition dominée par le parti islamiste Tewassoul. Le chef de l'État Abdelaziz, qui achèvera son second mandat en 2019, répète régulièrement qu'il ne tentera pas de modifier la Constitution pour se représenter sans apaiser les soupçons de l'opposition, alimenté par les déclarations publiques de ses ministres ou de ses partisans en faveur d'un troisième mandat.
Au Nigeria, de nouvelles violences ont éclaté lundi entre partisans d'un groupe chiite radical et forces de l'ordre à Abuja. C'est suite à des affrontements qui ont fait 3 morts pendant le week-end dans la capitale fédérale. Eric Manirakidza.
L'armée et la police sont affrontés des manifestants du mouvement islamique du Nigeria. Le porte-parole de ce groupe, Ibrahim Moussa, a fait état de plusieurs morts. Il n'a pas pu donner de chiffres précis car il n'était pas sur place. Un porte-parole militaire, James Miam, a affirmé que les membres de son mouvement chiite avaient attaqué des soldats et que ces derniers s'étaient seulement défendus. Amnesty International a déclaré que les informations faisant état d'usage de balles réelles sur les manifestants non armés étaient très inquiétantes. Le leader chiite nigérian Ibrahim Zakzaki ne reconnaît pas l'autorité d'Abuja et souhaite établir un État islamique à l'iranienne dans un pays où les musulmans sunnites sont majoritaires. Il est emprisonné depuis les violentes manifestations qui avaient secoué Zaria dans le nord du Nigeria en décembre 2015. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé la détention du leader chiite illégal et ordonné sa libération. Mais cette décision n'a jamais été exécutée. Ses partisans ont organisé ces derniers mois de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération, débouchant sur des heurts avec la police.
En Tunisie, au moins 15 personnes, dont 10 policiers, ont été blessées hier dans un attentat perpétré par une kamikaze à Tunis. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est en plein cœur de la capitale tunisienne, sur l'avenue Habib Bourguiba, que la kamikaze a actionné sa charge. Wassim Mahamoudi est membre du syndicat de la sécurité publique.
Nous savons que l'agresseur était une femme de 30 ans qui s'est approchée des véhicules de sécurité et qui s'est fait exploser. La police scientifique est sur place pour collecter des indices.
Cette femme n'était pas considérée comme extrémiste par les services de sécurité, a indiqué le ministère de l'Intérieur. C'est le premier attentat à Tunis depuis 2015. Nous avons cru que nous avions éradiqué le terrorisme. C'est une tragédie, a déclaré le président tunisien Béji Caïd Essebsi depuis Berlin. L'attentat intervient alors que la scène politique tunisienne est déstabilisée par des luttes de pouvoir au sein du parti présidentiel Nida Tounes et des dissensions de son allié clé Ennahda à l'approche d'élections présidentielles et législatives.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump doit se rendre aujourd'hui à Pittsburgh en Pennsylvanie, 3 jours après la fusillade qui a fait 11 morts dans une synagogue, la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. Des détails avec Irénée Herman-Ungbo.
Donald Trump sera accompagné de sa femme Melania pour exprimer le soutien du peuple américain et partager le deuil de la communauté de Pittsburgh, a déclaré hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. L'homme accusé d'avoir tué 11 personnes samedi matin dans la synagogue a comparu pour la première fois hier devant un tribunal de la ville assis dans un fauteuil roulant après avoir été blessé par balle dans un échange de tirs avec la police. Robert Bowers, 46 ans, n'a répondu que par l'affirmative ou par oui monsieur aux questions posées par le juge fédéral. Le procureur général Scott Brady a indiqué que la prochaine comparution devant la cour était prévue jeudi à 10h. Bowers a été inculpé samedi de 29 chefs d'accusation, dont certains passibles de la peine de mort. Il a tué 11 personnes et en a blessé 6 autres, dont 4 policiers.
Le président Trump et des membres de son administration ont continué à blâmer les médias, les accusant d'inciter à la colère qui a abouti à cette fusillade de Pittsburgh, ainsi qu'à l'envoi de colis piégés à des détracteurs de M. Trump. En revanche, les opposants au président américain rejettent sur lui la responsabilité des divisions profondes au sein de la société américaine, résultat, disent-ils, de ses propos acerbes contre l'opposition démocrate, les immigrés clandestins et ceux qui critiquent ses politiques.
Répondant aux demandes du président Trump, l'armée américaine a annoncé hier l'envoi de plus de 5000 militaires à la frontière mexicaine. Leur mission, bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centra-américains fuyant la violence et la misère dans leur pays. Cette opération baptisée « Patriotes fidèles » doit permettre de renforcer les postes frontières du Texas à la Californie et apporter un soutien logistique aux agents du service des douanes et de la protection des frontières sur d'autres zones moins bien protégées.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Angola va bénéficier de 200 millions d'euros de la France pour dynamiser son agriculture à partir de 2019. Cette enveloppe ira principalement sur le financement des projets relatifs à l'agriculture familiale et à la promotion de l'agro-industrie. Deuxième producteur mondial de manganèse à haute teneur, la compagnie minière de Logoué Comilog au Gabon a obtenu la certification ISO 9001 dans sa dernière version 2015 suite à l'audit du bureau Veritas qui s'est tenu du 25 au 28 juin 2018. Cette société devient ainsi la première entreprise gabonaise dans ce secteur d'activité à obtenir cette certification. Trois grandes sociétés sud-coréennes ont manifesté leur désir d'investir en Éthiopie. Elles souhaitent se lancer dans l'extraction d'intrants métalliques ainsi que la production de matériel et des ampoules à économie d'énergie. Elles vont opérer avec un capital de plus de 700 millions de dollars. L'ambassade d'Éthiopie à Séoul a commencé les préparatifs en vue d'une visite d'hommes d'affaires coréens à la fin du mois de décembre 2018. Pour finir, le Soudan lève l'interdiction d'importation des produits agricoles égyptiens. Selon Amer Nassar, ministre en charge du commerce et de l'industrie, l'abolition de la restriction commerciale laisse entrevoir une hausse des exportations agricoles vers le Soudan dans les prochains mois.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Lopetegui démis de ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid.
Et oui, le club merengue a annoncé le renvoi de son entraîneur hier, au lendemain de l'humiliant Classico perdu à Barcelone 5 buts à 1. L'Argentin Santiago Solari, technicien de la réserve, a été nommé entraîneur provisoire pour assurer l'intérim avant l'arrivée d'un successeur. Après seulement 139 jours en poste, Julen Lopetegui est évincé au terme d'une profonde crise de résultats durant laquelle son équipe a enregistré 5 défaites sur ses 7 derniers matchs. Il avait pourtant signé pour 3 ans. Avec ce renvoi, Lopetegui devient l'un des entraîneurs les plus éphémères de l'histoire récente du Real, avec seulement 14 matchs dirigés, 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Le technicien basque avait pourtant été renvoyé de la sélection espagnole juste avant le mondial pour avoir négocié avec le Real Madrid dans le dos de sa fédération.
Toujours en football, Ronaldo est revenu sur les raisons de son départ du Real Madrid.
Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme au début, a déclaré Cristiano Ronaldo, parti du Real Madrid pour la Juventus, dans un entretien avec le journal France Football. Si j'avais fait de mon transfert une affaire d'argent, je serais allé en Chine où j'aurais gagné 5 fois plus qu'ici ou qu'au Real Madrid. Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric, assure le Portugais qui dit mériter le ballon d'or cette année. Oui, je rêve de gagner le ballon d'or pour la 6e fois et de dépasser, dans le cas présent, Lionel Messi, a affirmé CR7.
Cyclisme, la 5e étape du Tour du Faso, secours aujourd'hui.
Ça secoure entre Yako et Zignaré, 145,6 km. Hier, déjà vainqueur de la 2e étape, le Burkinabé Mathias Sorgho s'est imposé lors de la 4e étape Lai-Waiguia, 148 km. Il a endossé du même coup le maillot jaune du leader. Au classement général, Mathias Sorgho possède 22 secondes d'avance sur Jor Angraff. Rikel Nobel est 3e à 1 minute 49. NBA pour finir, avec vous Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Portland bat Indiana 103 à 93. Philadelphie a eu raison d'Atlanta 113 à 92. Miami battu par Sacramento 123 à 113. New York bat Brooklyn 115 à 96. Golden State écrase Chicago 149 à 124. Toronto enregistre sa première défaite de la saison en succombant à Milwaukee 124 à 109. LA Lakers battu par Minnesota 124 à 120. Dallas battu par San Antonio 113 à 108. et Denver bat la Nouvelle-Orléans 116 à 111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la République centrafricaine et l'élection d'El-Hadj Laurent Ngorongbaba comme nouveau président de l'Assemblée nationale. Âgé de 61 ans, il succède à Abdou Karim Mekasua, destitué le 26 octobre dernier. Il a été élu hier dans un contexte de tension entre parlementaires, car un député a tiré un coup de feu en l'air en pleine séance. De Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Sur 140 députés qui siègent au Parlement, 24 étaient absents, 116 ont exprimé leur suffrage. El-Hadj Laurent Ngorongbaba, député de Baboua dans l'ouest de la République centrafricaine, a été élu avec 112 voix contre 4 bulletins nuls, car faisant face à aucun challenger. La candidature de Thierry Vakat a été rejetée pour non-respect du délai de dépôt, tandis que Timoléon Baïkoua, député de Pawa 2, a retiré la sienne. Cette élection est intervenue peu après une débandade dans la salle où s'est déroulé le vote. Alfred Yekatom, député de Mbaïki 2, connu sous l'appellation de Rambo, a dégainé un pistolet automatique sur un de ses collègues en pleine séance, tirant deux coups de feu en l'air. La séance a repris plusieurs minutes plus tard après l'interpellation du député, ex-chef de la milice anti-Balaka, par les forces de l'ordre. El-Hadj Laurent Ngorongbaba précise ses priorités.
Je m'engage immédiatement, d'abord à la mise en place par une note des règles procédurales de dépenses et un comité sera mis en place pour élaborer le règlement financier de l'Assemblée nationale. C'est un outil financier qui est prévu par la loi. Autre élément, c'est la gestion des députés. Vous savez, les députés qui sont des élus du peuple ne sont pas gérés de la même manière que les fonctionnaires. Normalement, on le gère soit par consensus, soit par l'élection à chaque fois qu'on a besoin, n'est-ce pas, de désigner un des membres pour représenter l'institution.
Plusieurs députés ont salué ce changement à la tête de l'Assemblée nationale. Serge Singa Bimba, président du groupe parlementaire Très d'union.
Ben écoutez, je suis très satisfait. Le président Ngorongbaba est un homme travailleur, compétent, qui a de l'expertise. Nous savons qu'il va donner le meilleur de lui-même pour faire en sorte que l'image de l'Assemblée, qui a été beaucoup ternie, soit à nouveau relevée et que les députés soient respectés et que nous puissions nous consacrer au travail du député.
Même si les parlementaires sont satisfaits, la société civile, elle, menace de demander la dissolution de cette Assemblée nationale. Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile, GTSC.
Le comportement de l'honorable Hécatombe, connu sous le sobriquet de Rambo. Il a dégainé son pistolet, voulant abattre un de ses collègues dans l'hémicycle. C'est extrêmement grave. Et nous condamnons ce acte parce que ça relève d'un comportement que nous ne pouvons en aucun cas l'admettre au niveau de la société civile, notamment au niveau du groupe de travail de la société civile. Par la même occasion, nous voulons attirer l'attention de nos élus, de la nation, qui, ces temps derniers, se comportent de telle sorte que l'institution qui est l'Assemblée nationale n'est plus respecté. Et si ce comportement perdure, nous allons tout simplement demander au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée, parce qu'on ne va pas continuer avec ce jeu, passez-moi l'expression, de gaminerie. C'est extrêmement enfantin.
El-Hadj Laurent Ngorongbaba, député et un des membres influents de la communauté musulmane centrafricaine, succède ainsi à Abdou Karim Mekasua, destitué le 26 octobre dernier par ses collègues députés. Abdou Karim Mekasua qui a appelé au calme dimanche lors d'un meeting dans le quartier du PK5. Freeman Sipila Bongi pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Fin hier à Arusha, en Tanzanie, du dernier round du dialogue inter-burundais, l'opposition et des représentants de la société civile étaient sur place, mais pas le gouvernement, qui avait demandé un report. Ce gouvernement, donc, n'a pas fait le déplacement. Qu'est-ce qui a pu sortir de ce dernier round de discussion? Idriss Fall a joint à Arusha Tassien Sibomana, porte-parole de l'UPRONA et de l'opposition intérieure.
Oui, la session a eu lieu malgré l'absence du gouvernement et nous avons fait le travail qui nous avait été demandé par le président Benjamin Mkapa. D'abord, il a dit qu'au niveau de la facilitation, c'était la dernière session telle que l'a demandé le dernier sommet des chefs d'État tenu à Kampala au mois de février de l'année en cours. Le président Mkapa, comme facilitateur, va rédiger son dernier rapport qu'il va transmettre au médiateur et il va tout faire pour faire convoquer un sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui sera un sommet spécial pour le Burundi.
Benjamin Mkapa donc jette l'éponge en tant que facilitateur.
Je ne dirais pas qu'il jette l'éponge, mais il a terminé le mandat parce que le sommet qui lui avait donné son mandat lui a demandé de convoquer la dernière session, ce qu'il a fait en tant que facilitateur et a terminé sa mission.
Quel avenir pour ce dialogue burundais alors?
D'abord, nous attendons la décision ou les mesures qui seront prises par le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a été annoncé par son Excellence le Président Mkapa. Dans notre document qui a été signé par tous les opposants qui étaient réunis, nous avons demandé que justement les Nations Unies et l'Union africaine qui avaient délégué la communauté de l'Afrique de l'Est pour agir en leur lieu et place devraient garder un œil vigilant sur l'exécution du mandat qu'elles avaient confié à la sous-région. Et que donc, si jamais le sommet des chefs d'État ne prenait pas des mesures allant dans le sens de faire sortir le Burundi de la crise, ces deux instances internationales et régionales restent toujours saisies de la crise burundaise. Nous leur avons demandé de montrer au peuple burundais l'autre voie, c'est-à-dire de nous montrer un autre cadre qui va continuer l'analyse de la situation et pourquoi pas trouver la solution à la crise.
Est-ce qu'on peut trouver une solution tant que les Burundais eux-mêmes ne se mettent pas ensemble pour discuter, y compris avec le gouvernement?
C'est ça qui a manqué. Les Nations Unies, l'Union africaine, les organisations régionales, sous-régionales ont pris des résolutions qu'elles n'ont jamais mise en application. Il en va d'ailleurs de la crédibilité de ces organisations. Un pays comme le Burundi ne peut pas quand même se fier de toute la communauté internationale. Si ces instances sont unanimes que l'insécurité du Burundi peut entamer toute la sous-région, il en va justement de la crédibilité de ces instances internationales qui sont en plus les garantes de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Nous leur avons demandé donc de faire pression au gouvernement et c'est possible. Et si le gouvernement accepte de dialoguer, je pense qu'il y a moyen justement que les Burundais s'asseyons ensemble pour trouver la solution à la crise.
C'était Tassien Sibomana, porte-parole de l'UPRONA et de l'opposition intérieure.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Épidémie Ebola en République démocratique du Congo, le ministère congolais de la Santé s'est alarmé hier du taux élevé de décès parmi les enfants dans l'est du pays des suites du virus. Cela serait dû en grande partie aux mauvaises pratiques d'hygiène dans des cliniques gérées par des guérisseurs traditionnels selon les autorités. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le maire de Beni, Nyoni Bwanakwava.
Aujourd'hui, la maladie à virus Ebola est en train d'être maîtrisée à Mangina, si pas qu'elle est déjà maîtrisée. Et l'épicentre, malheureusement, s'est déplacé de Mangina jusqu'à la ville de Beni. Et les chiffres qui ont été avancés par le ministère de la Santé sont des chiffres réels. Nous avons été en réunion hier avec l'équipe de la coordination de la riposte pour arrêter de nouvelles stratégies de manière à être à la hauteur et de lutter contre l'ascendance des statistiques.
Comment vous expliquez que plus d'enfants soient touchés?
Vous savez, il y a le phénomène de la résistance à certains comportements qui a été à la base de ça. Et à partir du moment où il y a des grandes personnes qui sont en contact avec les enfants, c'est comme ça que les enfants sont aussi devenus contact à partir de l'épicentre qui est parti de Mangina vers B.
Le ministère de la Santé parle aussi de mauvaises pratiques, notamment des guérisseurs traditionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Au niveau de la ville de Beni, on ne parlera pas trop des guérisseurs traditionnels, mais c'est comme je viens de vous le dire, le phénomène de résistance a fait passer la maladie de Mangina jusqu'en ville de Beni. Et ensemble, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que tout le monde comprenne que la lutte contre Ebola, ça doit être notre cheval de bataille commun. Et nous pensons que la sensibilisation telle que nous sommes en train de la mener pourra nous permettre que la maladie soit vaincue dans les jours à venir.
Qu'est-ce que vous mettez en place alors, justement, pour y parvenir?
C'est toujours la sensibilisation. Nous continuons à sensibiliser les gens. Il y a les étudiants qui sont entrés dans la danse. Ils ont compris que la maladie à virus Ebola a changé notre mode de vie. Et il est important que, outre la sensibilisation, que nous tous nous puissions prendre conscience de cette gravité de la maladie. Et c'est cette prise commune de conscience qui nous fera bouter cette maladie hors des limites de la ville de Beni.
Le maire de Beni, Bwanakawa, Nyoni Bwanakawa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Brésil en miniature, c'est ainsi qu'on désigne Ouidah. Cette ville de la République du Bénin, en raison de ses liens historiques et points communs avec Bahia. Que peut-on retenir de la ressemblance, non seulement entre les deux villes, mais aussi entre leurs habitants? Au micro d'Irénée Herman-Ungbo, quelques éléments de réponse avec José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du tourisme au Bénin.
C'est de Ouidah que sont partis pendant 3 siècles près d'1 million d'esclaves, dont une grande majorité vers le Brésil. Et lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage et qu'il y a eu le mouvement des Returnos, donc tous ces afro-descendants qui ont fait le choix de revenir dans leur terre natale, et ils sont donc revenus essentiellement à Ouidah et Porto Novo, mais beaucoup à Ouidah.
Entre le 17e et le 19e siècle, bien évidemment.
Exactement. Et ils ont donc réensemencé leur terre d'origine avec la culture de leur période esclavagiste, donc avec les noms bien sûr, mais également avec la cuisine, avec des coutumes, des chants, des danses qui sont restés extrêmement vivaces et présents.
Peut-on alors appeler Ouidah le Brésil en miniature ou le Brésil africain?
On peut dire ça parce que l'architecture a été fortement imprégnée de ce retour des afro-descendants, les noms des rues, les noms des gens. Et souvent, la plupart des Brésiliens qui viennent à Ouidah sont très émus, parfois même en larmes, parce qu'ils ont le sentiment d'être à Bahia. Quand on est à Ouidah, on a le sentiment d'être à Bahia, avec la culture vaudou notamment, la cathédrale, les forts, etc. On est vraiment, vraiment en miniature au Brésil, à Ouidah.
Les Agudas, c'était signe que l'on désigne au Bénin les descendants de Brésiliens venus s'installer, comme vous le disiez un peu plus tôt, en terre africaine, notamment à Ouidah. Comment décrivez-vous aujourd'hui cette cohabitation?
C'est comme souvent, hein, elle n'est pas simple, sauf que, oui, parce que ce sont des gens qui sont partis pour esclaves, qui sont revenus, on va dire, avec une forme d'émancipation et de culture, et donc ils sont devenus commerçants, ils avaient un pouvoir, une place sociale, on va dire, supérieure à ceux qui étaient restés sur place, donc forcément il y a une forme d'aristocratie qui s'est mise en place, mais qui n'a jamais empêché une cohabitation pacifique. Quand on songe, par exemple, au Libéria, ou lorsque les Noirs américains sont revenus s'installer au Libéria et où ils ont vraiment installé une espèce d'aristocratie brutale et dominante qui a amené des années plus tard aux guerres qu'on connaît au Libéria. On n'a jamais eu ça à Ouidah parce qu'il y a cette force très très grande de la culture vaudou qui est une religion non pas de domination mais une religion de pacification, de cohabitation. Du coup, elle a été un ciment réconciliateur et pacificateur qui a fait que cette communauté a cohabité. D'un point de vue social, il y a toujours, c'est vrai, une espèce de petit complexe de supériorité des d'Almeida, de Souza, des Dos Santos, oui. Et les mélanges se sont faits et aujourd'hui, on a une ville riche, diversifiée, colorée et pacifiée.
Joint par Irénée Herman-Ungbo, c'était José Plia, directeur de l'Agence nationale béninoise de promotion du patrimoine et du tourisme.
VOA Afrique,
vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.